à Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 17h30 en temps universel. Jacques Aristide en votre compagnie. Ravi de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Les titres en ce lundi 30 avril 2018. Au Tchad, le Parlement adopte une nouvelle constitution qui renforce les pouvoirs du président Déby Itno. Un vote boycotté par l'opposition.
On nous présente un projet dans lequel on a mis tout, sauf un état de droit. On a injecté là-dedans des dispositions assez scélérates.
En RDC, au moins 3 civils tués à Goma lors d'une fusillade. Au Burundi, un cadre du parti au pouvoir incarcéré pour incitation à la haine. Le président Donald Trump a reçu son homologue nigérian Mohamedou Buhari, premier dirigeant d'Afrique subsaharienne, qu'il invite à la Maison Blanche. En Afghanistan, une quarantaine de morts, dont 10 journalistes, dans une série d'attentats meurtriers. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. Le Tchad a adopté ce lundi par voie parlementaire une nouvelle constitution qui met en place une quatrième république et un régime présidentiel. Pour les détails, cap d'emblée sur N'Djamena où nous retrouvons notre correspondant André Kodmajingar.
Tout le long de l'avenue Pascal Ouadraogo qui mène vers le palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale, situé à 10 km environ du centre-ville, a été pris d'assaut ce lundi au petit matin par les forces de défense et de sécurité. Les éléments de la gendarmerie, de la police nationale et ceux de la garde nomade lourdement armés et équipés de canons à eau ont encerclé le siège de l'Assemblée nationale, dispersant toute tentative de regroupement, traumatisant la population de la commune du 7e arrondissement considérée comme fief de l'opposition. Le coordonnateur du front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, Mahamat Amat Alabo, accompagné de ses collègues de l'opposition pour prendre part à cette séance, a été éconduit à l'entrée de l'hémicycle par le service de sécurité. Dans le couloir, un député du parti au pouvoir, impressionné par l'arsenal de guerre déployé, a déclaré, je cite, « Nous sommes tous partants pour la 4e République, mais j'ai comme l'impression qu'on veut nous faire voter à main armée. » Fin de citation. C'est dans ce climat que les députés ont voté la nouvelle constitution de la 4e République. Pour l'heure, le président Déby dispose de 8 jours franc pour promulguer la nouvelle loi fondamentale qui lui donne tout le pouvoir de régner en maître absolu. André Kodmajingar N'Djamena, VO Afrique.
En République démocratique du Congo, au moins 3 personnes ont été tuées à Goma lors d'une attaque au fusil par des inconnus en civil. Une dizaine de personnes ont été blessées lors de cette fusillade hier dans le quartier du Mugunga. Le maire Timothée Mouissa Kense affirme qu'une réunion de sécurité se tient avec l'autorité provinciale avant de faire une déclaration officielle. Des crimes violents sont enregistrés à Goma, comme ces derniers mois des enlèvements d'enfants avec demande de rançon. Au Burundi, Melkiad Zopfa Barouché, un cadre du parti CNDD-FDD et ancien chef de cabinet adjoint du président Pierre Nkurunziza, a été arrêté et écroué hier pour incitation à la haine. Il avait tenu des propos menaçants envers des opposants au référendum constitutionnel du 17 mai. Jugé en flagrance au sein de la prison centrale de Mpimba Bujumbura, il avait été incarcéré donc la veille. Il a été condamné à 3 ans de prison pour menace d'attentat contre des personnes et faux bruit de nature à porter atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Un Sénégalais de 31 ans a reconnu ce lundi devant un tribunal de Dakar avoir reçu de l'argent de membres du groupe État islamique et de Boko Haram. Maktar Diokane, alias Abu Anwar, a toutefois affirmé avoir ignoré l'appartenance à ces groupes djihadistes des individus qui lui avaient remis de l'argent. Le procès, le premier de cette ampleur au Sénégal, s'est ouvert le 9 avril et entre cette semaine dans une phase décisive avec l'interrogatoire des deux principaux prévenus dont Moktar Diokane. Le procès concerne au total 29 prévenus, dont 3 femmes, poursuivies notamment pour actes de terrorisme et complot visant à l'instauration d'une base djihadiste au Sénégal. Le principal prévenu, un célèbre imam de Kaolack, Alioune Daou, devrait être interrogé plus tard dans la semaine. Je vous le disais en titre, Mohamedou Buhari a été reçu ce lundi par son homologue américain à la Maison Blanche. Cette visite, la première d'un dirigeant d'Afrique subsaharienne, est essentiellement axée sur les problèmes de sécurité et d'économie. Les précisions de John Lyndon.
Les deux hommes se sont retrouvés pour un tête-à-tête dans le bureau ovale avant de participer à une conférence de presse conjointe dans les jardins de la Maison-Blanche. L'exécutif américain est resté plutôt discret à l'approche de cette visite. Mais 15 mois après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, pour John Campbell du Conseil des relations étrangères, le fait que le président du pays le plus peuplé d'Afrique visite Washington pourrait bien être un signal important pour renforcer les relations États-Unis-Afrique. La Maison-Blanche a toutefois indiqué que les discussions porteraient sur la lutte contre le terrorisme et l'insécurité et le développement économique et démocratique au Nigeria, où une élection présidentielle est prévue en février 2019. Mouhamadou Bouhari, candidat à sa propre réélection, a affirmé son engagement pour la démocratie.
Au Soudan du Sud, la libération de 10 travailleurs humanitaires enlevés la semaine dernière au Soudan du Sud, je vous le disais, ont été libérés d'après le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, qui joue fréquemment les médiateurs entre ravisseurs et otages. Ces travailleurs humanitaires étaient portés disparus après l'attaque de leur convoi dans le sud-ouest de ce pays en guerre. Ils sont tous de nationalité sud-soudanaise et sont employés notamment par l'OCHA, l'UNICEF et des ONG. D'après l'OCHA, il s'agit du deuxième en enlèvement de travailleurs humanitaires par un groupe armé depuis le début du mois d'avril. Aux Comores, le président Azali Assoumani a secoué la scène politique de l'archipel en annonçant coup sur coup une réforme des institutions et une probable élection présidentielle anticipée dès 2019. L'ancien putschiste entend bien se présenter à nouveau, même s'il a été élu pour un mandat non renouvelable de 5 ans en 2016.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afghanistan, au moins 37 personnes, dont 10 journalistes, ont été tuées dans une série d'attentats à Kaboul et dans le sud du pays. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Un double attentat suicide a frappé la capitale afghane, faisant au moins 25 morts, dont Shah Marai, chef photographe de l'AFP à Kaboul. 8 autres journalistes ont été tués lors de la deuxième explosion. Selon une source sécuritaire, le kamikaze s'est glissé parmi les reporters, faussement muni d'une caméra et a fait exploser sa ceinture. Ce double attentat a été revendiqué par le groupe État islamique qui a qualifié les forces de sécurité et les médias de mécréants. Peu après, un autre attentat perpétré par un kamikaze en voiture a tué 11 enfants dans le sud-est du pays. Dans cette même région, un reporter afghan de la BBC a été tué par balle. Ces dernières attaques n'ont pas été revendiquées. Le 22 avril, une attaque a fait près de 60 morts dans une école de Kaboul où les électeurs se faisaient enrôler en vue des élections générales prévues le 20 octobre. Mercredi dernier, les talibans ont lancé leur offensive de printemps, rejetant implicitement les appels du gouvernement à entamer des négociations de paix. D'après les chiffres officiels, les attaques contre les civils ont fait 763 morts et près de 1500 blessés durant le premier trimestre de l'année 2018.
Au moins 26 combattants, majorité iraniens, ont été tués dans des tirs de missiles contre des positions militaires du régime syrien. D'après une ONG, l'opération menée hier soir porte la marque d'Israël qui est déterminée à empêcher tout ancrage de Téhéran en Syrie. L'État hébreu confirme rarement ses interventions en Syrie. Les médias étatiques syriens ont dénoncé une nouvelle agression sans en identifier les auteurs, assurant que des missiles ennemis avaient visé des positions militaires dans les provinces de Hama et d'Alep. Le président américain songe au village frontalier de Panmunjom pour son sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Dans un tweet ce lundi, Donald Trump écrit, je cite, « De nombreux pays sont envisagés pour la rencontre, mais est-ce que la Maison-Blanche de la paix et de la liberté, la maison de la paix et de la liberté à la frontière des Corées du Nord et du Sud, n'est pas plus représentative, importante et durable qu'un pays tiers ? Je pose simplement la question. » Fin de citation. Le village de la paix, situé dans la zone démilitarisée entre les deux Corées, a accueilli vendredi dernier un sommet historique entre Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in. Les deux dirigeants ont promis la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et l'établissement d'une paix permanente et solide entre leurs pays, toujours techniquement en guerre depuis 65 ans. La première ministre britannique, Theresa May, a nommé ce lundi ministre de l'Intérieur Sajid Javid après la démission d'Amber Rudd, emportée par le scandale du traitement réservé aux immigrés originaires des Caraïbes. Avec ce départ, Theresa May se retrouve en première ligne pour défendre une politique dont elle a été la principale instigatrice alors qu'elle était ministre de l'Intérieur de 2010 à 2016 dans le gouvernement de David Cameron. À 48 ans, Sajid Javid, fils d'un chauffeur de bus pakistanais, est la première personnalité politique issue de l'immigration à prendre les rênes du ministère de l'Intérieur. Les Européens se disent prêts à riposter à d'éventuelles taxes américaines sur leurs exportations d'acier et d'aluminium, mais espèrent encore éviter une guerre commerciale avec le président Donald Trump. Malgré ces demandes répétées, l'UE craint que l'exemption temporaire qui lui a été accordée fin mars par le président américain sur ses taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium, qui expire demain mardi, ne soit pas renouvelée. Et voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, en condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manerakiza.
11 chefs d'État africains se sont réunis dimanche à Brazzaville pour mobiliser des financements pour le fonds bleu du bassin du Congo. Le bassin est le deuxième poumon écologique de la planète. L'initiative veut protéger les 220 millions d'hectares du bassin pour permettre aux économies de la région liées à l'exploitation des forêts de passer à une économie fondée sur les ressources issues de la gestion des eaux et fleuves. Les projets vont porter sur l'amélioration des voies navigables, la construction des petits barrages hydroélectriques, le renforcement des systèmes d'irrigation et le développement de la pêche. L'Algérie va construire 41 nouvelles zones industrielles dans 34 départements du nord et du sud du pays. Alger a déjà débloqué 860 millions de dollars pour le démarrage des travaux. Près de 10 000 hectares de foncier industriel ont été aménagés et mis à la disposition des investisseurs. Le pays dispose actuellement de 72 zones industrielles. Les Européens prêts à riposter à des sanctions américaines sur l'acier. Ils veulent taxer de manière ciblée et proportionner des dizaines de produits emblématiques américains, surtout le tabac, le bourbon, les jeans ou les motos. L'exemple.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité sportive avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Allez, bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
L'Europe du football a les yeux rivés sur Madrid.
Oui, Real Madrid-Bayern Munich, demain en demi-finale, retour de la Ligue des Champions. Malgré la victoire à l'aller 2-1, Zinedine Zidane s'attend à cravacher comme jamais pour atteindre sa troisième finale d'affilée. Rien n'est joué, répète à l'envi l'entraîneur français du Real Madrid, qui voit dans ce duel au stade Santiago Bernabéu la marche la plus haute à franchir cette saison pour les doubles champions d'Europe en titre, qui visent, vous le savez, un triplé historique dans cette Ligue des Champions. La tâche s'annonce difficile pour les Bavarois, qui devront marquer au moins deux fois à Santiago Bernabéu, avec dans les rangs madrilènes l'inévitable Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de la C1, grâce à 120 buts en 151 matchs, mais qui n'a pas marqué à Munich. Il voudra sans doute se rattraper devant son public.
L'Espagne dévoilera bientôt sa liste des 23 joueurs retenus pour le Mondial en Russie.
Oui, le sélectionneur de l'Espagne, Julen Lopetegui, annoncera sa liste des joueurs convoqués le 18 mai à Madrid, juste avant la dernière journée de la Liga, le week-end du 20 mai. Tous les sélectionneurs doivent en principe fournir à la FIFA une liste provisoire de 35 joueurs le 14 mai, avant de la ramener à 23 noms au 4 juin. On rappelle que l'Espagne, championne du monde 2010, entrera en lice en Russie avec un choc contre le Portugal, champion d'Europe en titre. Ce sera le 15 juin à Sochi, dans le groupe B.
Cyclisme, fin du tour du Sénégal.
Le Namibien Dan Craven a remporté l'édition 2018 du Tour du Sénégal. Le coureur de la formation allemande Team Embrace the World devance l'Algérien Abderrahman Mehdi Hamza et le Néerlandais Rick Nobel. La dernière étape courue dimanche a été gagnée par l'Algérien Islem Mansouri, vainqueur de l'édition 2017.
Et puis Nicolas, NBA, championnat de basket nord-américain.
Et James Harden, avec ses 41 points, n'a laissé aucune chance à Utah, submergé 110 à 96 par Houston. lors du premier match du deuxième tour des play-offs. C'était hier. LeBron James, de son côté, a répondu présent en situation de crise. Avec ses 45 points, la superstar de Cleveland a fait plier Indiana, une victoire des Cavaliers 105-101, ce qui permet à Cleveland et surtout à LeBron James de passer le premier tour des play-offs NBA.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide, toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Retour à l'adoption de la nouvelle constitution au Tchad. Les députés du pays ont donc voté ce lundi ce projet de révision constitutionnelle qui met en place un régime présidentiel et renforce les pouvoirs du président Idriss Déby Itno. L'opposition avait appelé ses députés à boycotter le vote tout en demandant à la population de se rendre à l'Assemblée nationale pour assister à la séance publique. Abdourahmane Dia a joint N'Djamena Brice Mbaimong Getmbay, président du mouvement des patriotes tchadiens pour la République.
Nous avons lancé un appel à nos militants de se rendre à la séance plénière de l'Assemblée nationale. Et nous aussi, nous sommes rendus à l'Assemblée nationale puisque dans la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée, les séances plénières de l'Assemblée sont publiques. Toutes les séances sont publiques et donc les citoyens peuvent venir à l'Assemblée nationale assister au débat. Alors moi, nous sommes rendus à un fort déploiement de forces de l'ordre qui ont bouché tous les accès à l'Assemblée nationale et arrivés aux portes donc du palais de la démocratie qui abrite le siège de l'Assemblée, nous avons été conduits. Certains d'entre nous qui se retrouvent dans la cour ont été expulsés.
L'opposition avait quand même appelé au boycott, n'est-ce pas?
L'opposition a appelé au boycott et a demandé à ses députés de ne pas participer à tout le processus donc de validation de cette loi.
Mais est-ce que ce n'est pas de la provocation alors?
Non, ce n'est pas de la provocation puisque les députés qui avaient, nos députés avaient déjà suspendu leur participation. Mais en ce qui concerne la séance plénière en question, nous voulons nous rendre là-bas pour assister de manière pratique au débat. Et nous avons fait, en faisant comme ça, nous ne faisons que usage à notre droit qui est d'assister à une séance publique. Nous ne faisons pas de la provocation. La preuve est que le personnel de l'Assemblée ou alors tous les autres surtout les consorts qui arrivent à l'Assemblée assistent à la séance. Ce n'est pas pourquoi nous avons été identifiés et refoulés.
Quels sont les griefs que vous avez contre ce texte? Que reprochez-vous à ce texte?
Vous savez, globalement, il y a beaucoup à reprocher à ce texte. Mais d'abord, par principe, nous avons rejeté le principe donc de l'organisation du forum qui a conduit dans les conclusions dues à l'élaboration de ce texte. Quand le gouvernement avait décidé d'organiser le forum, au niveau de l'opposition, nous avons suggéré un dialogue inclusif qui peut réunir tous les acteurs politiques et sociaux en vue donc d'arriver à un consensus. Deuxièmement, on nous présente un projet de constitution dans lequel on a mis tout, sauf un état de droit. On a injecté là-dedans des dispositions assez scélérates, des dispositions liberticides. Donc pour cela, nous pouvons faire passer un texte de ce genre-là à l'Assemblée nationale. Il faudrait que cela soit soumis à l'approbation du peuple et donc aller le faire valider par référendum.
On écoutait Brice Mbaimong Getmbay, président du mouvement des patriotes tchadiens pour la République.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Cap maintenant sur la capitale économique de la Côte d'Ivoire, où se déroule depuis vendredi dernier la 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan. Le CITA en abrégé. Une vingtaine de pays prennent part à l'événement dont la clôture est prévue pour demain, mardi. Visite guidée avec notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
C'est l'un des plus grands rendez-vous des professionnels du tourisme, le Salon international du tourisme d'Abidjan, le CITA. Chaque année, l'événement mobilise à Abidjan les principaux acteurs de la chaîne touristique, les agences de voyage, les compagnies aériennes, les hôteliers, les restaurateurs et les tours opérateurs. À cette 8e édition, plus de 200 exposants, en provenance d'une vingtaine de pays, ont répondu présents. Jean-Marie Sommet, commissaire général du CITA.
Le salon, c'est pour faire l'état des lieux dans le thème du tourisme. C'est un secteur d'activité porteur pour tous les pays du monde. Mais nous avons demandé aux pays africains d'être présents pour partager ensemble leur expérience et voir comment on peut ensemble faire des destinations inter-État. Partager ensemble avec les autres leur expérience, faire du B2B. C'est le plus grand secteur économique du monde. C'est le secteur des services.
Au nombre de la vingtaine de pays présents à ce salon, en vue de présenter leur richesse culturelle et touristique, il y a le Burkina, la Guinée, le Gabon, le Sénégal, la Chine, l'Inde ou encore le Mali. Fatoumata Ouattara, directrice générale de l'Agence des promotions touristiques du Mali.
Nous avons un riche patrimoine culturel, hérité des grands empires que le Mali a connus, avec 12 sites classés patrimoine mondial matériel et immatériel par l'UNESCO, dont la célèbre mosquée de Djéné, qui est le plus grand monument en Banco du monde. Nous avons également une grande diversité de faune et de flore. Et quand vous venez au Mali, vous pouvez également faire des croisades sur le fleuve Niger.
Le Maroc est aussi présent à ce salon. Noureddine Nassiri de l'Office marocain du tourisme salue la coopération sud-sud.
Il y a eu la création de l'association des directeurs des offices tourisme africains ici à Abidjan. Ça, c'est une bonne chose. C'est l'avenir que la coopération sud-sud aboutit à quelque chose. Ça se fait dans plusieurs secteurs aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se concrétise de plus en plus dans le tourisme. On est fiers de ça.
Evelyne Lequien sillonne l'Afrique depuis des années pour aider différents pays à être plus visibles sur les radars du tourisme mondial. Elle est la directrice de l'agence Outre-mer.
En fait, on aide les régions des pays africains à trouver les stratégies de développement touristique, créer des parcours, les positionner sur un plan cible de clientèle, etc. Et on crée les outils de communication, notamment les films capsules pour mettre sur le web, les flyers, les affiches. Et puis, on structure les villages pour effectivement leur permettre d'accueillir les visiteurs.
L'ambition des autorités ivoiriennes, faire du pays la 5e destination touristique du continent. Pour y parvenir, des investissements de l'ordre de 3 000 milliards de francs CFA sont prévus. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Direction Burkina Faso, eh bien, mauvaise nouvelle, le pays vient de perdre sa première place de producteur de coton en Afrique au profit du Mali. Pour la prochaine saison, l'association interprofessionnelle de coton du Burkina entend reconquérir sa première place en fixant la production nationale à 836 000 tonnes et une augmentation du prix d'achat du kilo de coton au producteur. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Sans faire dans le jeu de mots de mauvais goût, on peut dire que le Burkina Faso a filé du mauvais coton en cette campagne 2017-2018. Suivant Ali Compaoré, le directeur général de la Socoma, société cotonnière du gourmand.
L'insuffisance des pluies est passée par là. Les conséquences d'un tel profil pluviométrique atypique ont été une perturbation du développement normal du cotonnier dans un nombre assez important de parcelles, une forte recrudescence du parasitisme ainsi. Le volume de la production de coton graines conventionnel attendu au plan national pourra atteindre d'ici la fin de la campagne de grainage, d'ici donc la fin du mois de mai, 612 000 tonnes de coton graines. Si à cette production, on enregistre celle du coton biologique équitable de 1300 tonnes, la production nationale devrait donc se situer à 613 000 tonnes de coton graines. Ce niveau de production place le Burkina au deuxième rang des pays producteurs de coton africain, après le Mali.
Pour reprendre sa place de leader, les responsables du coton du Burkina ont fixé la barre de production pour la nouvelle campagne à plus de 800 000 tonnes. Ali Compaoré, le directeur général de Socoma, explique.
Cette année, effectivement, l'objectif de production fixé par la ICB est de 836 000 tonnes. Nous pensons que cet objectif est réaliste et réalisable pour plusieurs raisons. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà recensé tous les besoins des producteurs. Donc, nous avons individuellement les plans de campagne de chaque producteur. Donc, quand vous prenez la compilation donc, de ces éléments-là, on se rend bien compte que nous sommes au-delà de 900 000 hectares. Nous avons porté le prix d'achat coton-graines à 250 francs. C'est une amélioration par rapport à la campagne passée. Nous avons pu également, grâce à des subventions apportées par l'État burkinabé, nous avons pu maintenir le prix de cession des intrants au même niveau que la campagne passée.
La Sofitex, société des fibres textiles du Burkina, entend mettre en œuvre une assurance agricole. Suivons avec Wilfried Yamego, le directeur général de la Sofitex, les détails de cette assurance agricole.
Nous avons imaginé, avec les partenaires assureurs, la mise en place donc d'une assurance agricole. C'est 5 800, le premier étage, et 11 200, le deuxième étage. Le premier étage de prime de 5 800 donne droit à une indemnité de 45 000 francs à l'hectare. Le second étage donnant droit à une indemnité de 90 000 francs à l'hectare.
Que pensent les producteurs de coton de l'assurance agricole et de la perte de la première place par le Burkina? Écoutons Yacouba Koura. Il est le vice-président de l'UNPCB, Union nationale des producteurs de coton du Burkina.
Vraiment, le Burkina a perdu sa première place. Ça nous fait très mal. Par rapport à l'assurance, je pense que c'est la bienvenue.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Une caravane avec plus d'une centaine de migrants partis d'Amérique centrale est arrivée à la frontière américano-mexicaine. Leur objectif, demander l'asile aux États-Unis, mais les officiers d'immigration américains disent qu'il n'y a plus assez d'espace à la frontière pour les recevoir tous. De plus amples détails avec Arzuma Compaoré.
C'est la nuit dernière que la caravane de migrants est arrivée à la frontière américaine avec l'espoir d'entrer aux États-Unis. Après un long et épuisant périple d'un mois, environ 150 migrants d'Amérique centrale ont finalement atteint San Diego, une des zones de passage les plus actives du pays. Le groupe a été refoulé, les gardes frontières et les officiers de l'immigration leur ont dit qu'il n'y avait plus de place, ce qui n'a pas convaincu les organisateurs de la caravane.
Nous pouvons construire une base en Irak en moins d'une semaine, mais nous ne pouvons pas traiter 200 réfugiés? Je n'en crois pas.
Les migrants ont donc passé la nuit dehors. Originaires du Honduras, du Salvador, du Guatemala, ils ont traversé le Mexique, parfois en train ou en bus, d'autres à pied, pour fuir la violence et la persécution. Manuel Ramirez, un migrant.
Il y a des enfants, des mères, des hommes comme moi. Vous savez, nous nous battons pour un avenir meilleur.
Le groupe aurait pu être oublié si le président Donald Trump n'avait pas appelé à l'arrêt de la caravane.
Est-ce que vous avez vu ce désordre qui se passe en ce moment avec cette caravane qui arrive?
Le président américain a même menacé de fermer les entrées dans le pays à cause de cela.
Nous avons besoin du mur. Si nous n'obtenons pas la sécurité à nos frontières, nous n'aurons pas de choix. Nous allons fermer le pays parce que nous avons besoin de la sécurité frontalière.
Également présents à la frontière, des Américains venus protester comme Jeff Schwick, originaire de San Diego et partisan d'une frontière sécurisée.
S'ils voulaient vraiment l'asile, ils l'auraient demandé au Mexique.
Des avocats américains sont sur place pour offrir des conseils gratuits, car pour eux, le retour à la maison n'est pas une option. Nicole Ramos, avocate.
Ce qui les attend ici n'est pas aussi terrifiant que ce qu'ils ont laissé derrière eux, ce qu'ils ont essayé de fuir.
Pour le moment, les autorités américaines n'ont laissé entrer aucun demandeur d'asile, mais ces migrants sont déterminés à attendre à la frontière tout le temps que cela prendra.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et oui, à ne pas rater ce rendez-vous avec Roger tout à l'heure. Voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par mon ami et collègue Georges Léonard Sagneux. C'est également notre ami Joe Gill qui était à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. Encore une fois, c'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.